Nous retrouvons l'abbé Philippe Beitia et nous poursuivons sur le thème donc de la manifestation du Christ. Alors nous avons parlé de l'adoration des mages devant l'enfant Jésus à Bethléem. Nous avons parlé du baptême du Seigneur avec Jean-Baptiste donc qui baptise le Christ dans le Jourdain. Aujourd'hui, nous allons parler d'une troisième manifestation de Jésus qui se déroule dans un petit village lors d'un mariage.
Exactement. Et pour ainsi dire, Jésus vient, et ses disciples viennent, pour ainsi dire, dans les valises de sa mère, parce que c'est elle qui est invitée, nous dit Saint Jean. C'est elle qui est invitée. Et sûrement qu'on a dû lui dire, écoute, viens avec ton fils. Oui, mais il a aussi des disciples. Ben, venez, bon, quand il y en a pour un, il y en a pour 10. Ça va être quelque chose comme ça. Donc voilà, il est donc invité à une noce villageoise, comme vous l'avez indiqué.
Il n'y a que Saint Jean qui raconte cet épisode.
Saint Jean est le seul à raconter cet épisode, effectivement.
Alors, bien sûr, Saint Jean, il a toujours une idée derrière la tête. Pourquoi il raconte cet épisode?
Alors, il raconte cet épisode. Bon, il faut regarder la fin de l'évangile, où on nous dit que par ce signe, donc la transformation de l'eau en vin, Jésus manifesta sa gloire. Et puis, Saint Jean nous montre que la Vierge Marie avance l'heure du Messie, puisque, voilà, quand elle dit « ils n'ont plus de vin », Jésus dit que son heure n'est pas encore venue. Donc elle
Est-ce que la Vierge Marie aurait forcé la main à son fils?
L'attitude de la Vierge est très intéressante à Cana. C'est une femme qui a un regard aigu. Elle n'est que l'invitée. Elle se rend compte que le vin manque, que la fête va tourner court, que sûrement pour le jeune couple, il y aura une pluie de critiques. Elle va aller trouver son fils. Elle lui dit, c'est pas une maman méditerranéenne qui va lui forcer la main. Elle lui présente le problème. Ils n'ont plus de vin. Elle se fait un peu rembarrer quand même. Femme, mon heure n'est pas encore venue. Mais si j'ose dire, elle ne lâche pas de morceaux. Elle va aller voir les serviteurs et leur dire « faites tout ce qu'il vous dira ». Mais
elle ne sait pas elle-même ce qu'il va faire, quoi.
Elle ne sait pas ce qu'il va faire. Et une fois que le signe est accompli, elle se retire, elle disparaît. Voilà, le regard aiguisé, le souci du bien des hommes, la foi, le respect du Christ, respect de sa liberté et l'effacement. Il y a tout ça aussi dans l'attitude de Marie.
Saint Jean nous donne tous les détails, puisqu'on sait exactement combien d'eau il va transformer en vin.
Oui, c'est entre 700 et 800 litres, d'après, puisque Saint Jean nous donne le contenu.
Je sais même qu'un séminariste avait calculé combien ça faisait de bouteilles et de cartons pour aujourd'hui.
Pour aujourd'hui, oui, parce que ça, j'imagine qu'on devait le garder dans des espèces d'amphores ou à l'époque. Bon, oui.
Donc c'est une quantité assez importante.
Voilà.
Donc ils buvaient pas mal dans les mariages à Cana.
Ben, c'est-à-dire, c'était des mariages un peu comme autrefois dans notre pays. Il y avait des mariages qui duraient une semaine ou plus, avec repas à la clé et invité. Donc, bon, il peut y avoir ça, mais il y a surtout le souci de Jean. Bon, le vin, ça peut être effectivement la coupe amère de la passion. Mais le vin dans la Bible, c'est le signe de la joie. Et, voilà, Dieu qui réjouit le cœur de l'homme par le vin. Hein, le vin qui réjouit le cœur de l'homme dans le psaume 102, si mes souvenirs sont bons. Donc, ça veut dire aussi, à travers ces 700-800 litres de vin, un peu, ben voilà, que le Christ, par l'alliance nouvelle, éternelle, un clin d'œil aussi à Isaïe, ce repas, vous savez, au vin décanté, bien, apporte effectivement la vie et la joie aux hommes. Et ce miracle se fait dans les jarres de la purification des Juifs. Donc ça veut dire qu'on passe de l'ancienne à la nouvelle alliance. Et puis, voilà qu'on passe de l'eau, incolore, inodore et sans saveur, au vin, dans on va vers quelque chose qui est meilleur.
On nous dit même que c'était le meilleur vin de servir pendant ce repas, voilà, de tout le repas.
Voilà, l'organisateur du repas, hein, le maître du repas, va dire cela. Vous remarquerez qu'il manque un personnage dans cette noce. C'est l'époux. On n'en parle quasiment pas.
Est-ce que c'est le Christ lui-même ?
Voilà. Chez Jean, on aurait dû parler de l'époux, de l'épouse et ce genre de choses. Il n'en est rien. Donc, Saint Jean, en faisant cette description, ben voilà, nous dit que le véritable époux, c'est le Christ. Et là aussi, vous avez un clin d'œil, si j'ose dire, concernant l'alliance entre Dieu et l'humanité qui est vue à travers l'image d'épousailles indéfectibles et indissolubles entre Dieu et les hommes.
Jean nous présente ça comme un signe de la manifestation du Christ, d'épiphanie du Christ, le début de son ministère public.
Voilà, Jean nous le présente donc comme le ministère public avancé par Marie, hein, parce que Jésus n'avait pas, pas d'intention, si je veux dire. Mais effectivement, Jean termine le récit en nous disant que Jésus manifesta sa gloire. Voilà, la gloire, ça nous renvoie bien sûr au prologue de Jean où il est question de la gloire du Verbe. Et à travers ce signe, c'est déjà donc Dieu qui se manifeste dans la personne de Jésus.
Donc finalement, l'épiphanie du Seigneur revêt plusieurs aspects. On l'a vu donc avec l'adoration des mages à Bethléem, avec le baptême du Seigneur au Jourdain par Jean-Baptiste, et donc cet épisode des noces de Cana. Est-ce qu'il y a d'autres récits d'épiphanie dans les évangiles ?
Alors pour reprendre la première partie, il y a une antienne qui voit tout ça sous l'angle des noces, dans l'office. Le Christ qui purifie son Église, selon Éphésiens 5, c'est symbolisé par le baptême de Jésus. Le vin des noces qui est apporté, symbolisé par l'épisode de Cana. Et les cadeaux faits aux époux, symbolisé par les présents des mages. Ceci étant, bien sûr, pour répondre à la seconde partie de votre question, bien sûr, tout au long de la semaine, on va lire des épisodes sélectionnés par l'Église qui vont manifester donc d'autres aspects de cette épiphanie de Jésus.
Et ensuite, il y aura le passage où Jésus va lire la parole de Dieu dans la synagogue.
Oui, en Luc 4, ce qu'on appelle, ce que les exégètes appellent, voilà, le récit inaugural du ministère de Jésus, ou le programme inaugural, bon, les termes sont bien sûr un peu étranges quand on parle du Christ. Le Christ n'est pas un homme politique qui est un programme, hein, mais bon. Nos mots sont toujours infirmes. Voilà. Effectivement, voilà, donc Jésus est invité à faire la lecture dans la synagogue de son village et il choisit le texte, bon, ce qui correspond pour nous à Isaïe 61, un texte qu'il sélectionne. Je veux dire par là qu'il ne va pas jusqu'au bout. Parce qu'il est question, juste après le passage qu'il cite, de la revanche de Dieu. Donc il s'arrête. Et donc, à travers ce texte, et voilà, que les Juifs considèrent comme visant le Messie, ben Jésus se présente comme celui sur lequel l'Esprit repose. On retrouvera ça chez Saint Jean, venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux prisonniers qui sont libres, les prisonniers du mal, du péché, tout ça, bon, voilà.
Merci beaucoup, et nous retrouverons une prochaine fois pour continuer à au fil de la liturgie à évoquer donc ce que l'Église nous invite à vivre. Merci à vous.
Au revoir.